Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Ça n'a rien de grave, mais comme on a trois interventions, il vaut mieux qu'on démarre assez vite pour laisser la place aux intervenants et aussi la place au débat. Donc, le titre qui vous a été proposé, c'est « Révolution » de juin 1848 à Alep. Donc, ça laisse ouvert toute une série de questions. L'ordre de présentation qu'on vous propose, c'est donc la première intervention, celle de Francis Sittel, qui anime aujourd'hui la revue Contretemps et qui interviendra sur « Que veut dire ce nom de révolution ?». Il sera suivi par Michel Rios-Arcet, historienne, en particulier justement des révolutions au XIXe siècle, du rôle des femmes aussi dans les luttes sociales. Et la dernière intervention sera celle de Ziad Majed, qui est l'auteur d'un livre sur la révolution syrienne, Révolution orpheline, qui est politologue et qui interviendra sur l'oubli des révolutions, l'oubli des peuples. Révolution arabe et question syrienne. Je me suis rendu compte que j'ai pas mentionné le titre d'intervention de Michel Rios-Arcet, l'oubli des révolutions, l'oubli des peuples, qui va tourner autour de la révolution de juin 48. Voilà. Je donne la parole d'abord à Francis. Tu as une vingtaine de minutes. Je te ferai signe quand tu arrives.
D'accord, merci. Et merci à vous pour votre participation. Effectivement, le mot de révolution est un mot qui apparaît troublé dans la situation actuelle, puisque un candidat à la présidence qui a été brillamment élu avait donné pour titre à son livre-programme « Révolution ». Donc, ça veut dire que le mot est à la mode. Le sous-titre était « Réconcilier la France ». Ce qui paraît un alliage un petit peu particulier. Non, mais ce qui est plus sérieux et plus grave, c'est ce que Emmanuel Macron dit à propos de la Syrie dans son grand entretien du Point. Il dit « Pour exister, nous devons parler à tout le monde. Il faut en finir avec ce néoconservatisme mal digéré qui nous conduit à interférer dans la politique domestique des autres. » Pour nous retrouver ensuite isolés. En Libye et en Syrie, cela nous a menés à des échecs cruels. Je trouve que la formule à propos de la Syrie de politique domestique des autres est choquante. D'une part, l'amalgame entre la Libye et la Syrie est pour le moins contestable, puisqu'on n'a pas du tout affaire aux mêmes politiques, mais surtout parler de politique domestique des autres à propos de la Syrie, c'est choquant sur le plan moral et c'est stupide sur le plan politique. Choquant sur le plan moral parce que est-ce que lorsqu'on a affaire à une dictature comme celle de Bachar al-Assad, de la famille Assad sur des décennies, puis avec Bachar al-Assad, une dictature qui mène une guerre contre son propre peuple, et le mot « guerre » dans toutes ses dimensions de sauvagerie et de moyens militaires, quelqu'un qui est accusé de manière documentée de crimes contre l'humanité, est-ce qu'on peut associer cette réalité-là à la notion de question domestique, de politique domestique ? Ce serait l'affaire de simplement en Syrie, et le reste de l'humanité ne serait pas concerné. Et puis, sur le plan politique, comment penser que les effets de la situation en Syrie, entre autres, sur le plan du terrorisme, sur le plan des mouvements de migration, comment caractériser cela comme des questions qui seraient internes à la Syrie et qui n'auraient pas de conséquences ? Donc, ça montre que sur cette notion de révolution, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, le mot existe, dévoyé, mis à toutes les sauces. Mais en revanche, on voit que, au moins au niveau des débats français, de la situation politique française, on ne s'intéresse pas à des révolutions qui sont en acte, des révolutions qui se passent sous nos yeux, des révolutions qui sont présentes sur nos écrans, et qui sont documentées comme jamais des révolutions n'ont été documentées précédemment. Hein, ce sont les révolutions arabes, la Tunisie, l'Égypte, d'autres pays, et en particulier la Syrie. Donc il me semble qu'il faut s'interroger, réfléchir sur ce paradoxe qui est tout à fait sidérant, hein, qui fait que le mot révolution, alors on dira révolution numérique, ça ne pose pas de difficulté. On associera le mot révolution à des révolutions effectives, mais avec un qualificatif qui est problématique. Révolution orange, révolution de velours, révolution de jasmin au début de la révolution tunisienne, dans nos débats politiques franco-français, révolution citoyenne, révolution démocratique, démocratique au sens de révolution par les urnes. Donc une inflation du mot révolution, mais par rapport à ces révolutions-là qui se passent sous nos yeux et dont on peut estimer qu'elles représentent des bouleversements historiques absolument décisif pour l'avenir, pas simplement de cette région du monde, mais pour l'avenir de l'humanité, là, il y a une occultation. Hein, c'est-à-dire que j'ai été frappé par l'ouvrage à propos du Rwanda, hein, l'ouvrage de l'historien Stéphane Audouin Rougeau, qui parle d'occultation et qui s'appuie sur, enfin, qui se réfère à une citation de Peggy, qui est « il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit ». Et il me semble que dans le cas des révolutions arabes, en particulier de la Syrie, on se refuse à voir ce que l'on voit. Et que c'est un phénomène qui demande à être interrogé et étudié. Premier élément pour essayer de comprendre ce paradoxe sidérant, il me semble qu'il y a un argument qui est de mauvaise foi ou de mauvaise conscience, qui consiste à dire « ce ne sont pas des révolutions ». On a cru que c'était des révolutions, mais ce ne sont pas des révolutions. Alors, dans le cas de la Syrie, on dira « c'est une guerre civile, c'est un affrontement entre une dictature et des forces islamistes », ce qui permet de les renvoyer dos à dos ou de choisir l'une plutôt que l'autre, en général plutôt choisir la dictature que les forces islamistes dans nos débats français. C'est un théâtre auquel on ne comprend plus rien parce que il y a de multiples confrontations pour des intérêts géostratégiques ou pour les puissances régionales ou pour les puissances mondiales, l'argument du pétrole. Enfin, c'est un échiquier où l'élément de la mobilisation du peuple syrien est escamoté au profit d'autres grilles de lecture. Alors, si on réfléchit à ça, une hypothèse de travail, c'est que dans nos débats, en particulier en France, il y a peut-être l'idée qu'il y a un modèle estampillé de révolution. Il y a des situations où on a le droit d'utiliser le mot révolution, mais dans d'autres situations, ça n'est pas pertinent. Alors évidemment, le modèle de référence, c'est la grande révolution française, éventuellement la révolution russe, peut-être parce qu'elle a mal fini, mais dès lors qu'on touche à d'autres révolutions, ça devient plus difficile à manier, ça devient plus confus, la révolution chinoise, la révolution confortable, cubaine. Idée sous-jacente peut-être à cela, c'est, et qui vient appuyer, même si c'est une explication qui flirte avec le racisme, l'idée qu'il y a des sociétés et des peuples pour qui la démocratie est impossible. Et donc, qu'ils soient condamnés à osciller entre dictature militaire et dictature islamiste, c'est leur destin et la possibilité même d'une révolution démocratique est écartée. Il faut noter que cette thèse-là trouve un écho dans le propos d'Emmanuel Macron que je citais, puisqu'il dit « les biens communs du monde libre que sont la démocratie, la paix, le climat ». Parce que le climat vient faire là-dedans, mais cette idée que c'est du ressort du monde libre, et pas d'autres mondes qui ne sont pas libres et qui ne sont condamnés à ne jamais être libres. Deuxième piste de réflexion, c'est le livre récent de Jean-Claude Milner, « Relire la Révolution », donc qui s'interroge sur cette notion de révolution, et qui considère que la seule vraie révolution, c'est la Révolution française, et que toutes les autres révolutions sont des croyances, sont de l'ordre de la croyance, et non de la réalité. Parce que la Révolution française, c'est la Révolution des droits de l'homme, et que donc il y a eu quelque chose qui a été imposé, et il me semble que derrière ça, il y a une idée qui mérite réflexion, qui est que ne serait vraie révolution que des révolutions qui créeraient quelque chose d'irréversible. La Révolution française a connu des contre-révolutions, Thermidor, l'Empire, la Restauration, mais a maintenu un socle qui fait qu'il n'y a pas eu de retour à l'Ancien Régime. Il y a des éléments qui ont été instaurés qui étaient irréversibles. Et il me semble que ça pose la question de... Et là, on retrouve cette notion du printemps des peuples, qui a été évoquée au moment de la Révolution tunisienne. Il y avait cette idée qu'il y avait des révolutions, et puis ensuite, il y a eu la déception, puisqu'il y a eu réversibilité, il y a eu renversement, et on est revenu, semble-t-il, à l'état antérieur, parfois aggravé dans certains cas. Et donc, si l'idée de révolution arabe était une illusion, c'est peut-être parce qu'il y a cette idée que dès lors qu'il y a réversibilité, eh bien, il faut considérer que ce n'était pas des vraies révolutions. Et il me semble que qu'il y a derrière un élément de croyance, comme dirait Jean-Claude Milner, un élément de croyance qui est cette idée que ne sont de vraies révolutions que celles qui créent de l'irréversible, et que dès lors qu'il y a réversibilité, ça veut dire que ce n'était pas des révolutions que l'on s'est trompé. Et du coup, ça m'amène à le dernier point sur lequel je voudrais orienter la réflexion, qui est que il n'y a pas de révolution sans contre-révolution. Hein, et que ce qui nous fait réellement problème dans ces réflexions, c'est pas la révolution, c'est la contre-révolution. Hein, et que pourtant, un spécialiste de la question, Joseph de Maistre, avait donné une indication géniale, qui est qu'une contre-révolution, ce n'est pas une révolution à l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne revient jamais au point de départ, mais on est face à une bifurcation historique qui fait qu'une révolution peut déboucher sur plus de violence que le système contre lequel elle se soulevait. Et il me semble que dans le cas des révolutions arabes, on a cette situation tragique qui fait qu'on préfère escamoter la réflexion sur ce qu'est une révolution et donc ce que c'est qu'une contre-révolution, plutôt que de s'interroger et d'être angoissé par ce qu'on voit sous nos yeux. Et je pense que, enfin, il me semble que c'est peut-être ça qui explique le phénomène d'occultation qui se produit, au moins dans notre société, par rapport à cette réalité qui est qu'on voit qu'une contre-révolution déploie une violence, une sauvagerie, une barbarie sans commune mesure avec ce qui apparaît acceptable. On fête le centenaire d'octobre 17 et l'interrogation qu'on doit avoir par rapport à octobre 17, c'est justement qu'on a là un précédent historique d'une révolution qui a été renversée par une contre-révolution d'une brutalité extrême, le stalinisme, jusqu'au totalitarisme. Donc, une situation historique qui montre que ces choses-là ne sont pas des choses tranquilles, apaisantes pour la conscience, mais au contraire extrêmement perturbantes. Et ça sera ma conclusion, qui est que cette occultation par rapport aux révolutions arabes, et puis ces divisions absolument incroyables que ça provoque, y compris dans des forces qui se disent de gauche, pour certaines qui se revendiquent de la révolution, cette occultation par rapport à ce qui se passe sous nos yeux dans le cadre des révolutions arabes est une manière, une incapacité, voire un refus de regarder en face ce que sont les contre-révolutions qui peuvent se développer lorsqu'il y a un mouvement révolutionnaire d'une telle profondeur et d'une telle ampleur que celui qui traverse les sociétés arabes et dont l'épicentre aujourd'hui est la Syrie. On préfère oublier que de regarder en face cette révolution, cette situation terrible.
Merci, Francis. Je passe donc la parole maintenant à Michel Rios-Arce sur l'oubli des révolutions, l'oubli des peuples.
Merci. Ça tombe très très bien. On n'avait pas vraiment préparé ensemble nos interventions, mais je vais essayer de répondre en quelque sorte au questionnement qu'a présenté notre ami Francis. Et je suis vraiment très contente d'être ici. C'est dommage que ça soit organisé de cette manière avec une foultitude d'ateliers, si bien qu'on ne peut pas assister à tout. Il faudrait une vraie discussion là-dessus de fond avec le temps, avec vous, pas simplement écouter des informations, mais qu'importe. Donc je suis vraiment contente de discuter avec Ziad parce que c'était un vieux projet. On s'était dit il y a tellement de similitudes qu'il faudrait pouvoir parler ensemble entre la situation qui s'était déroulée il y a bien longtemps en 48 et puis ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie, puisque longtemps on a comparé le printemps des peuples au printemps arabe. Personnellement, quand j'ai vu les titres des journaux sur cette comparaison, je me suis insurgée en disant « mais qu'est-ce que ça vient faire ? Ça n'a strictement aucune similitude, il faut absolument changer la chose ». Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que, effectivement, peut-être de manière inconsciente, mais les journalistes n'avaient pas totalement tort. Ici, même dans cette université où j'ai longtemps enseigné, nous avons fait un débat avec, tout de suite après 2000, le printemps dit arabe, et en particulier avec des historiens tunisiens, je dis tunisiens parce que c'est plus facile, parce qu'ils sont proches, on n'avait pas choisi véritablement, et un historien tunisien dont j'ai totalement oublié le nom et je regrette amèrement ici, avait dit, était intervenu extrêmement modestement en disant je ne sais pas si je suis spécialiste, je n'ai pas les discours théoriques adéquats. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai systématiquement, depuis le début, retenu les slogans qui se déroulaient dans les places et je me suis rendu compte que les slogans étaient extrêmement proches. Liberté, la réorganisation du travail, etc., etc. Donc, il avait fait toute une liste. À partir de là, je me suis dit, il y a quand même quelques similitudes. Alors, moi, j'aimerais répondre à ce que disait Francis. La révolution, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que la révolution, si on prend l'exemple de 48, eh bien, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée donc, dans les révolutions arabes, enfin, ce qui s'est passé en 2011, en Syrie en particulier, en Égypte, et en Tunisie, il y a eu un moment extraordinaire, un moment de révolte particulièrement intense, où les mots d'ordre étaient d'une radicalité apparente et d'une simplicité qui rendait compte de ce qu'était la vie. Alors, il ne s'agissait pas en 48 simplement de juin 48. Juin 48 n'est qu'un rejeu de février 48, dans cet instant extrêmement court où tout semble possible. Tout semble possible au point que la totalité des observateurs en 48, je dis bien la totalité, les conservateurs comme les révolutionnaires, je fais allusion à ce que dit Tocqueville, Alexis de Tocqueville, que vous connaissez sans doute, ou ce que dit Pierre-Joseph Proudhon, ou enfin les observateurs anonymes, comme nous dirions, tous, sans exception, je dis bien tous, sans exception, pensaient que la révolution de 48 allait absolument tout bouleverser. La révolution de 48, disait-il, est beaucoup plus grande, beaucoup plus immense que celle de 89, parce que c'est une révolution qui va beaucoup plus loin, contrairement à ce que 89 a fait, disent-ils, elle n'est pas simplement politique, elle est sociale. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que la poignée, et je cite Philippe Vigier, qui est un vieil historien qui est mort depuis longtemps, qui a imposé en quelque sorte ce point de vue, je dirais presque à juste titre, la poignée d'agitateurs parisiens, c'est-à-dire une minorité, comme c'était une minorité dans les printemps arabes, cette poignée d'agitateurs parisiens a imposé l'idée même de république en 3 jours. Seulement, elle s'est greffée, cette révolution, qui était une révolte, elle s'est greffée sur un processus continu, hein, comme dirait Joseph de Maistre, un processus continu de l'histoire qui n'est pas interrompu par la révolution. Elle s'est greffée sur une demande de réforme du suffrage, jusqu'au suffrage universel. Seulement, cette poignée d'agitateurs parisiens avait des mots d'ordre extrêmement précis, concrets. La réorganisation du travail, la diminution du temps de travail, l'abolition du marchandage, l'abolition du travail à la tâche, et surtout, le mot d'ordre de la révolution de 48 n'était pas le suffrage immédiat. Le mot d'ordre central, c'était l'abolition de la misère. Et donc, cette révolution, qui était effectivement faite par une poignée d'agitateurs parisiens en février, dès le 1er mars, à partir du moment où le gouvernement provisoire a décidé d'organiser le travail, comme il disait, c'est-à-dire à donner le droit au travail, 5 à 6 000 ouvriers défilent devant l'hôtel de ville pour expliquer ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est précisément les mêmes mots d'ordre qui existaient pendant les grèves de 1840, c'est-à-dire l'abolition de la misère, la transformation des rapports de travail, pas l'organisation du travail, la transformation des rapports de travail, la diminution du temps de travail et en même temps, bien entendu, l'abolition du marchandage et le travail à la tâche. Et ce qui est étonnant, cette révolution était en fait une révolte, parce que dans la révolte où tout est possible, on pense, comme le dirait très bien un historien italien, on pense au surlendemain et pas au lendemain. C'est-à-dire qu'on imagine la transformation radicale de la société. Seulement, la différence avec ce que l'on croit être les révolutions selon ceux qui parlent à leur place, c'est qu'ils étaient précis. Ils disaient ce que révolution voulait dire. Et immédiatement, je dis bien immédiatement, bien avant juin 48, s'est greffé les interprètes, les autorités, le gouvernement. Les femmes de 48 allaient même dire le gouvernement, la politique. C'est l'art, non seulement de gouverner les hommes, mais de dominer les hommes. Ces gouvernements qui, successivement, se sont mis en place après le suffrage universel, parfaitement légal, je dirais la limite beaucoup plus légale que ne l'est Macron aujourd'hui. 75% des électeurs se sont prononcés. Seulement, la masse des électeurs non révolutionnaires ont présenté en quelque sorte des représentants qui n'avaient strictement rien à voir avec les révolutionnaires. Strictement rien à voir avec les révolutionnaires. Si bien que lorsqu'on a aboli précisément tous ces droits en fermant les ateliers nationaux, il y a eu cette insurrection inouïe, inattendue, impossible à imaginer, cette révolution de juin 48, qui disait simplement que juin 48, c'était la révolution, non seulement de la désillusion, parce que là, leur république, celle qu'ils venaient de mettre en place, dans la continuité du cours du temps, dans la continuité du sens de l'histoire, n'avait strictement rien à voir avec le mouvement historique que la Révolution avait introduit. C'est pourquoi il faut maintenant s'interroger, Francis a raison, sur ce que sont les révolutions. Au-delà même de ce que dit Audouin Rousseau en disant « il faut voir ce que l'on voit », non, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut voir ce que l'on ne donne pas à voir. Et il faut éviter justement cette fascination qu'a Milner envers les leaders de la révolution qui souvent interprètent ce que disent les révolutionnaires. Leaders, par exemple, qu'on pourrait considérer parfaitement représentatifs, comme Proudhon en 1848, qui a été quelque peu en décalage. Bien qu'elle étant parfaitement partie prenante de la Révolution, eh bien, lui veut un peuple, effectivement, un et indivisible, un peuple qui parle d'une même voix, et je le cite, « Le peuple est un et indivisible, et non la multitude, ce qui n'est que la pluralité sans unité. Le peuple, écrit-il en mars, lui qui considérait que le peuple voulait la souveraineté, le peuple, l'homme collectif, sa volonté est unanime. Le peuple, l'homme collectif. Il n'y a pas une diversité d'individus, il n'y a pas un débat à l'intérieur du peuple, il y a ce collectif, cette entité, eh bien, facile à interpréter, et on fait dire au peuple ce qu'il n'a pas du tout l'intention de dire. Raison pour laquelle Proudhon, et je prends Proudhon non pas comme, je dirais presque repoussoir, bien au contraire, il était reconnu comme le leader des socialismes et des socialistes, si bien que Proudhon n'a pas compris. Après juin 48, le mouvement extraordinaire d'association qui s'est constitué entre tous les ouvriers, hommes et femmes confondus. Après cette répression inouïe, scandaleuse, que l'on veut immédiatement effacer et qu'on a réussi à effacer, on est parvenu à effacer la révolution de 48, eh bien, malgré tout, l'espoir est tellement chevillé au corps de la part des révolutionnaires. Je dirais que c'est un petit peu semblable de manière, je dirais, pas tout à fait, bien entendu, mais la résistance d'Alep m'a fait penser à la résistance de juin 48. On a effacé juin 48. Et pourtant, cet espoir était tellement grand que plus de 120 associations se sont constituées pour organiser précisément ce qui était totalement désorganisé, réorganiser la production et faire en sorte précisément de penser, je cite une des révolutionnaires, Pauline Roland, le gouvernement direct du peuple. Non pas la démocratie directe, le gouvernement direct, c'est-à-dire essayer de rendre en quelque sorte les moyens de production, la consommation, la distribution aux mains de ceux qui travaillent. Et c'est vous dire que tous les propos qui sont tenus aujourd'hui sur la réorganisation du travail ou la liberté du travail apparaissent comme une véritable régression par rapport, non pas à ce qui a eu lieu, parce que la répression s'est étendue immédiatement, mais aux espoirs qui étaient alors très largement explicites, mais qu'on a refusé de voir, qu'on n'a jamais donné à voir, et que les interprétations ont laissé croire que la révolution de 48 n'avait qu'un objectif, la fondation de la République. Alors oui, la République a eu lieu, oui, la République a été installée dans un court temps, puisque le coup d'État est intervenu très vite, mais une République qui n'avait, je dis bien, strictement rien à voir avec les aspirations des révolutionnaires. La révolution a bien eu lieu, mais cette révolution s'est exprimée par une révolte avec des espoirs extraordinairement précis et qui ensuite se sont transformés pour devenir tout simplement un devenir historique pour faire sens dans l'histoire, mais que ce suspens des temps historiques qui est le principe même des révolutions qui sont portées par une révolte populaire, ce suspens des temps historiques, jamais n'est intégré dans l'histoire. C'est pourquoi je pense que ce lien que l'on peut effectuer entre ce qui s'est passé en 48, 1848, j'ai pas le temps parce qu'il faudrait développer tout ce qui se passait en Europe à cette époque-là, puisque la révolution a été parfaitement européenne, tout ce que ça engendre en quelque sorte comme esprit de liberté, tout ceci a été effacé, et c'est pourquoi la résonance, l'écho est d'un réalisme extraordinaire entre ce qui se passe, ce qui s'est passé au XIXe siècle et ce qui se passe en ce moment en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte et ce qui s'est passé en Syrie. L'effacement du peuple, c'est-à-dire l'effacement des revendications, des espoirs, de l'esprit de liberté, cet effacement est depuis très longtemps inscrit dans un processus historique. Et il nous importe vraiment, si on veut restaurer, si on veut rétablir l'esprit d'émancipation, l'émancipation, il importe réellement d'avoir une discussion collective qui commence, ou qui va commencer, et qui va être particulièrement importante aujourd'hui, parce que l'actualité de la Révolution, c'est bien notre actualité, et cette fois-ci, une actualité à l'échelle mondiale. Je laisse donc la parole à Ziad.
Ziad Majed, sur l'exemple syrien dans les révolutions dans la région arabe.
Merci. Alors, Francis et Michel ont mis la barre très haut. Je vais essayer de faire quelques liens et de parler du contexte arabe et syrien actuel, parler des révolutions, des contre-révolutions, et où sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut continuer de qualifier ce qui s'est passé de révolution ? Est-ce qu'on peut l'inscrire dans le devenir historique ? Pourquoi en 2011 cela a commencé ? Et surtout, pourquoi cela n'a pas suscité suffisamment de solidarité d'attachement à des valeurs universelles qu'on aurait cru, disons, voir ou ressentir dans des moments pareils quand de larges catégories de peuples se soulèvent contre des dictatures et contre des régimes qui ont confisqué le temps, qui ont confisqué l'espace pendant des décennies. Donc 2011, juste pour vous rappeler, ça a commencé en Tunisie, puis c'était l'Égypte, la Libye, le Yémen, le Bahreïn et la Syrie. Donc 6 pays arabes qui ont été bouleversés par des développements. En Tunisie, Ben Ali, le président, était au pouvoir depuis 1987, déjà 13 et 11, 24 ans. En Égypte, Hosni Mubarak était au pouvoir depuis 1981. Donc 30 ans. Au Yémen, Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 1978. Donc on parle de combien 22 et 11, 33 ans déjà. Au Bahreïn, c'est une monarchie et les khalifas confisquent le pouvoir depuis l'indépendance du pays, depuis les années 50 et puis depuis le référendum de 1971. En Libye, Muammar al-Kadhafi est au pouvoir depuis 1969. 31 et 11, 42 ans. Et en Syrie, les Assad, père et fils, sont au pouvoir depuis 1970, donc 41 ans. Et la Syrie, je le rappelle, était le seul cadre républicain dans le monde après la Corée du Nord. Il y a eu plus tard le Gabon et je pense soit le Tadjikistan, soit l'Azerbaïdjan, où un père, dans le cadre république, donne le pouvoir, offre le pouvoir à son fils, après avoir même modifié la constitution. Parce que la constitution syrienne stipule que le président de la République doit avoir 40 ans. Bachar al-Assad, en 2011, n'avait que 34 ans. Et l'anecdote, et ce n'est pas une exagération, c'est que le Parlement syrien s'est réuni d'une manière urgente et en 3 ou 4 minutes, il a voté la modification de la constitution pour rendre l'âge de la présidence 34 ans et pour appeler à l'élection de Bachar al-Assad. Les élections en Syrie depuis Assad père et jusqu'à maintenant, ce ne sont pas des élections avec plusieurs candidats. Je ne parle même pas encore de l'État policier, des services de renseignement, du monopole de tous les aspects du pouvoir. Mais même au niveau de cette formalité qu'est les élections, ce sont des référendums. Donc les gens votent oui ou non. Oui ou non à Bachar al-Assad. Oui ou non à Hafez al-Assad. Et comme dans une grande partie des pays arabes qui ont été gouvernés par des régimes pareils, on a toujours des résultats qui sont autour de 99,99%. Et on les appelle les républiques des 99,99%. Sauf que Bachar al-Assad, pour se montrer plus moderne que son père, avait accepté un 97,92%. Et évidemment, les Syriens et les Syriennes se demandaient toujours qui sont ces personnes qui ont dit non de cette manière-là pour que leur voix soit comptabilisée. Je dis tout ça pour montrer que ces régimes, dans la plupart des pays, avaient confisqué le temps. D'ailleurs, ça rime en arabe, on dit « l'Assad ilal abad », c'est-à-dire « Assad pour toujours, pour l'éternité ». Cette volonté d'être au-delà du temps, de confisquer le temps, a été une pratique courante dans la région pour éloigner les gens du temps donc de l'action, donc de la continuité, donc de la vie. La seule vie qui continue, c'est celle du président, de sa famille, et c'est cette volonté de passer le pouvoir d'une génération à l'autre sans que les citoyens, sans que les citoyennes, entre guillemets, aient quelque chose à dire ou à faire parce que le temps est confisqué et parce que l'éternité de la famille s'impose sur tout le monde. C'est également la confiscation de l'espace. Dans la plupart de ces pays arabes, mais surtout en Syrie, les rues sont appelées la rue de Assad, la bibliothèque de Assad, l'aéroport de Assad, le port de Assad, la place de Assad. Les portraits des présidents arabes, ils sont partout. C'est comme le Big Brother, c'est comme le fameux 1984. Hein, cette idée que je suis là, je vous vois là où vous êtes. Moubarak avait ses portraits partout. La personne se sent minuscule devant un portrait géant qui est dans toutes les places et qui confisque l'espace et qui dit aux gens « je vous surveille ». Dans son livre sur le règne de Assad, la politologue américaine Lisa Wooden parle d'une théorie qu'on peut qualifier de la théorie « agir comme si ». C'est-à-dire on impose une obéissance au niveau de la société, on impose une discipline et avec le temps, avec la violence à la fois physique puis symbolique, une attitude des gens fait croire au sultan, au président, au roi, qu'il le croit. S'il parle de ses grands succès, s'il raconte son histoire glorieuse, les gens applaudissent, les gens sont amenés par force parfois aux manifestations, ils doivent porter son portrait, ils agissent comme s'ils croient vraiment à sa supériorité, à son intelligence, à son succès, à ses grands projets. Et finalement, en faisant cela, même s'il n'y croit pas, lui, il est satisfait parce qu'il a imposé toute cette relation ambiguë, perverse, entre un pouvoir qui s'impose et entre des gens qui, malgré toutes leurs formes de résistance, finissent, après de longues décennies, par accepter un certain ordre, parce que le prix est extrêmement cher s'ils disent non. Et d'ailleurs, les opposants arabes, pendant de longues décennies, ont connu la prison, ont connu les tombes et ont connu l'exil. Leur littérature, leur cinéma sont témoins. Et il y a des œuvres qui sont très puissantes et qui racontent les années 60, 70, 80, 90, etc. Puis en 2011, finalement, ce n'est pas une question générationnelle seulement, mais il y a aussi cet aspect de génération. Il y a un nouveau monde arabe qui se réveille, des gens qui descendent dans la rue, des gens qui veulent se réapproprier le temps, qui veulent libérer les espaces publics, qui veulent dire qu'ils veulent marcher la tête haute, comme la plupart des gens dans ce monde, ou comme l'aspirent la plupart des gens dans ce monde, que la dignité est une priorité et qu'ils veulent finir avec ces régimes. Ils veulent que ces régimes chutent. Un moment d'enthousiasme va suivre cela, notamment par rapport à la Tunisie, parce que la révolution était rapide, parce qu'on a eu l'impression que le président qui a pris la fuite a laissé un régime en faillite, parce qu'on a pensé que c'était vraiment un grand succès. Il reste aujourd'hui un succès relatif, puisque quand même il y a eu un passage, une transition, disons, il y a eu des élections, mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de défis, et on peut en parler plus tard si vous voulez. L'Égypte a suivi. C'était encore un enthousiasme, parce que c'est resté dans un cadre plus ou moins pacifique, parce que les armées dans les deux pays avaient décidé, dans le cas tunisien, où elle ne jouait pas un rôle important, cette armée, de laisser faire, de demander au président même de partir pour éviter l'affrontement. Dans le cas égyptien, l'armée a décidé, au contraire, d'absorber l'attention, de gouverner d'une manière indirecte en sacrifiant juste le président pour reprendre le pouvoir plus tard. Et on parlera un peu de ce qui s'est passé avec Sisi, avec une contre-révolution, suite à un épisode également qui était pas tout à fait, disons, révolutionnaire. Mais on peut parler également du rôle des islamistes. Les choses se compliquent davantage s'agissant du Bahreïn, puis du Yémen, puisque quand on parle du Bahreïn, c'est l'Arabie saoudite qui est tout de suite concernée, qui envoie ses troupes pour aider le gouvernement sur place à écraser l'opposition. Yémen, plus tard, ça va se transformer en une guerre entre des acteurs locaux, mais avec des interventions. Aujourd'hui, c'est l'intervention, encore une fois, saoudienne, mais également les Iraniens sont présents indirectement à travers des alliés. La Libye, vous connaissez le scénario, une intervention militaire qui va suivre une résolution onusienne, mais qui va au-delà de cette résolution-là pour faire chuter le régime de Kadhafi ou aider l'opposition ou les révolutionnaires libyens à en finir avec leur dictateur. La Syrie, on sent dès le début des hésitations. Et je vais m'arrêter un peu sur cette question-là. Pourquoi la Syrie interpelle? Pourquoi on a eu tant d'hésitations par rapport à la Syrie? Pourquoi ceux qui ont soutenu des révolutions en Tunisie puis en Égypte, s'agissant de la Syrie, ils ont commencé à faire marche arrière, ils ont commencé à questionner la légitimité même d'utiliser le terme révolution s'agissant de la Syrie? Pourquoi on est passé tout de suite à un vocabulaire qui évoque la guerre civile, qui parle de l'impérialisme, qui parle de la géostratégie? Pourquoi on a occulté le peuple syrien et on l'a remplacé par des gazoducs et par des barils de pétrole? Pourquoi on a considéré qu'il y a une seule forme d'intervention et qu'on n'a pas vu que la Russie, par exemple, est intervenue militairement après une intervention indirecte avant? L'Iran est intervenu également? Pourquoi la Syrie a suscité autant d'hésitations, autant de silence et parfois autant de complicité avec le régime Assad face à son peuple? Je pense qu'il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut s'arrêter. D'un côté, Assad père avait déjà réussi à occulter son peuple, avait déjà réussi, à travers la position géostratégique de la Syrie, d'être un acteur qui intervient au Liban, qui utilise la cause palestinienne, qui manipule parfois la cause kurde face aux Turcs, tout en écrasant les Kurdes syriens eux-mêmes, qui est concerné par ce qui se passe en Irak. Il a utilisé plusieurs cartes dans la région, et à chaque fois qu'il y avait des négociations, à chaque fois qu'il y avait des médiations, on venait frapper à sa porte. Je parle des Occidentaux, pour parler du Liban, pour parler des otages là-bas, pour parler de la question palestinienne, pour parler des tensions avec la Turquie, pour parler d'Irak, mais jamais on parlait du peuple syrien, jamais on parlait de ce qui se passait en Syrie même. Et en Syrie même, il y avait déjà des massacres, il y avait déjà dans les années 70 une opposition qui s'est soulevée et qui a été écrasée. Il y a eu en 80 un massacre dans la prison de Palmyre. Et Palmyre, ce n'est pas seulement Daesh qui détruit une part de l'archéologie et du patrimoine mondial. Palmyre, c'est aussi les murs de la prison qui a connu des milliers de morts sous la torture et à partir des exécutions, qu'ils soient islamistes, frères musulmans ou de la gauche syrienne. Mais la Syrie, c'est 82 également, c'est Hama. En 3 semaines, en février, la ville de Hama a été écrasée avec des milliers de morts et des dizaines de milliers de disparus. Et tout cela n'a pas été couvert d'une manière décente, ni dans la presse, ni au niveau des pourparlers avec le régime. On a souvent occulté le peuple syrien. Et puis en 2011, quand les Syriens se sont soulevés, on a continué à les occulter. Et on a commencé à entendre des arguments comme quoi il y a des barbus, c'est entre Assad et les islamistes, on doit choisir, c'est entre les Saoudiens et les Iraniens, c'est les Russes et l'OTAN et les Américains. Ce n'est pas vraiment une révolution, parce que qui sont ces Syriens qui descendent là? Et on a même entendu des clichés extrêmement racistes et méprisantes au niveau des classes sociales, non seulement ici, mais même dans le monde arabe, au Liban, en Syrie même, où on regardait ceux qui sont dans la rue comme étant des femmes de ménage et des ouvriers qui venaient des banlieues de Damas pour manifester. Et qui sont ces gens-là pour oser parler de liberté, de dignité, de valeur, entre guillemets, moderne, à laquelle ils ne doivent pas adhérer? On a décidé qu'une femme de ménage voilée, qu'un homme qui est un ouvrier à Damas, qui vient d'une banlieue, qui vient d'une classe populaire, n'est pas digne de parler de valeurs universelles que nous sommes supposés défendre et soutenir. Tandis que le régime, qui a souvent voulu se montrer plus moderne, plus progressiste que sa société, avec la première dame qui est sur des couvertures de Vogue et de Paris Match et présentée comme la rose du désert, qui est élégante, qui pose devant les caméras, face à une femme voilée, face à une société qu'on a montrée comme conservatrice, comme islamiste, vaut mieux faire le choix dans ce sens-là. On a parlé tout de suite d'impérialisme. La Syrie a un discours, un logiciel qui est utilisé sans aucune valeur sur le terrain, comme quoi elle lutte contre l'impérialisme américain. Donc, évidemment, c'est un complot. La déstabiliser est un complot et ce n'est pas une révolution. On a parlé de la question religieuse tout de suite, bien avant qu'il y ait des véritables tensions communautaires. Et les tensions communautaires existent évidemment dans la région pour différentes raisons qu'on peut analyser. Mais contrairement à ce qui était au début une révolte qui a utilisé des slogans bien précis sur la liberté, sur la justice, sur la fin de la dictature, sur la chute du pouvoir, sur la fin de l'éternel de la famille Assad, sur cette volonté de se réapproprier la propre histoire, sur la libération de la parole, sur les gens qui depuis Hama sont restés silencieux sur leur propre misère et qui commençaient à parler, à raconter ce qui s'est passé. Contrairement à tout cela, on a quand même vu juste le déclivage confessionnel, on a vu des acteurs étrangers s'imposant sur la scène syrienne et on a réduit le champ politique syrien, ce champ révolutionnaire syrien en islamiste ou Assad et puis en Daesh ou Assad. Donc, présenter la Syrie de la sorte nous donne un choix entre un fasciste cravaté, un dictateur cravaté et un fasciste barbu. Qui nous fait plus peur, évidemment, qui vient, certains même disent pour justifier cette approche qu'ils appellent réaliste ou pragmatique, que Assad ne tue pas nos enfants à Paris, c'est les barbus, les islamistes qui viennent le faire chez nous, donc vaut mieux choisir nos ennemis, et pour le reste, ce n'est pas notre affaire. Monsieur Le Drian, qui est un peu l'idéologue de cette nouvelle approche de Macron, par rapport à la Syrie, et qui a surtout sa source chez M. Vedrine, veut dire que notre véritable ennemi est cet islamiste terroriste. Assad est l'ennemi de son peuple, mais ce n'est pas notre affaire. Donc, accepter quand même qu'Assad est l'ennemi de son peuple, accepter quand même, et comme l'avait signalé Francis, à partir de plusieurs rapports documentés des Nations Unies, de Amnesty, de Human Rights Watch, d'organisations syriennes, la quantité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qu'a commis ce régime, ce n'est pas notre affaire, puisqu'il les a commis contre son propre peuple. Nous ne sommes pas concernés, donc il peut continuer à gouverner. Et en 2017, dire ce genre, ou défendre ce genre d'argument, envoie un message extrêmement violent aux Syriens, mais également à cette région du monde, comme quoi votre sort, si vous êtes sous les barils explosifs, si l'arme chimique est utilisée contre vous, si 17 000 personnes meurent sous la torture dans la seule prison de Saïdnaya à Damas, si vous vous soulevez pour réclamer des valeurs que nous défendons et nous considérons comme notre héritage, notre patrimoine, ce n'est pas grave tout cela s'il vous arrive, tant qu'il peut y avoir un troisième acteur, comme Daesh ou autre, qui nous menace et qui nous fait peur, ben nous on va aller le bombarder, et pour le reste, nous sommes désolés. Donc cette idée de considérer que cette région du monde peut rester sous une impunité, sous des dictatures, sous des criminels, parce que ce n'est pas notre question, est en soi ce qui peut nourrir toutes sortes de frustrations, de colère, de nihilisme, et avec le temps, cela certainement peut renforcer les arguments de certains groupes, pas que nécessairement comme Daesh, mais d'autres groupes qui ont de la haine, qui ont de la colère et qui ne savent pas toujours comment l'exprimer, où l'exprimer et contre qui l'exprimer. Donc cette injustice que subissent les Syriens, mais pas seulement, parce qu'au Yémen également il y a une situation catastrophique aujourd'hui, en Libye c'est le cas, n'en parlons pas de l'Irak, mais considérer que la dictature peut régner dans cette région si elle nous offre la stabilité. Considérer que la seule priorité qui doit guider une politique étrangère, c'est la position par rapport aux islamistes. Considérer que la justice et le fait que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ne doivent pas rester impunis. Considérer qu'on peut revenir en arrière, effacer 6 ans, 7 ans de soulèvements populaires, de manifestations, d'écritures, d'expression artistique, de présence des femmes dans l'espace public avant que la violence ne s'abat sur eux, sur elles également. Considérer que le destin qui se joue sur l'autre côté de la Méditerranée ne nous concerne pas, je pense, est extrêmement dangereux et fait tort à la mémoire même de nos révolutions, de notre propre histoire. et puis se réveiller de temps à autre avec des immigrés, avec des réfugiés, on ne sait plus comment les qualifier maintenant, qui arrivent et qui transforment, vu leur malheureux destin et vu la condition de leur fuite, la mer Méditerranée en une fosse commune, ça effraie en plus et ça crée chez nous des crispations identitaires, la montée des extrêmes, etc. Donc la Syrie incarne aujourd'hui un destin et en même temps reflète la faillite du système international, reflète la faillite de certaines valeurs universelles, de la solidarité internationale. Le veto a été utilisé 8 fois au niveau du Conseil de sécurité pour paralyser toute volonté de gérer ou d'intervenir par rapport à ce drame. La Russie est présente, l'Iran est présente. C'est un pays sous occupation. Et si Assad tient, c'est surtout à cause de cette occupation-là étrangère qu'il a préservée et à cause de cette complicité ou, disons, de cette absence de volonté finir avec son règne et de mieux négocier avec les Russes ou de trouver d'autres formes de mécanismes pour le ramener à La Hague où il doit être et non pas à Damas où il risque de rester quelque temps. Je n'ai pas parlé des islamistes, on peut évoquer cela, leur rôle, est-ce que c'est une contre-révolution ou pas, quelles sont les contre-révolutions que toute cette région a connues, quel est le rôle saoudien dans cela, quel est le rôle de certains autres acteurs. Évidemment, ça c'est un débat également légitime, on peut le faire, mais je voulais juste signaler, par rapport à la Syrie, que les questions qui concernent les Syriens et les Syriennes restent de l'ordre politique, restent de l'ordre révolutionnaire, que ce processus, même s'il est aujourd'hui dans une phase extrêmement difficile, même si le régime, vu les interventions iraniennes et russes, a gagné sur le terrain, ou plus ou moins a gagné, mais il y a d'autres formes de résistance et de résilience qui se développent également. Il y a un processus irréversible dans certains sens par rapport à la libération de la parole, par rapport à la réappropriation de l'histoire même de la Syrie, par rapport à l'expression artistique, par rapport à beaucoup de destins individuels comme collectifs qui se construisent en exil, mais également à l'intérieur, dans des conditions extrêmement difficiles. Juste pour vous donner un chiffre concernant la Syrie, c'est un pays de 23 millions. Il y a aujourd'hui 6 millions de réfugiés à l'extérieur du pays. Il y a 7 millions de déplacés internes. Il y a plus de 500 000 morts, plus de 75 000 disparus, qui s'ajoutent à 75 000 détenus, qui sont connus au niveau de là où ils sont détenus. Et c'est un pays qui est déchiré au niveau territorial, par rapport au contrôle de chaque zone par un acteur, qu'il soit syrien ou une occupation étrangère. Donc le destin des Syriens, à mon avis, nous concerne comme notre propre destin, non seulement parce que c'est une question de solidarité et de valeur universelle, mais même par rapport à l'évolution du monde dans lequel nous vivons, de ses identités, de ses valeurs et du vivre ensemble, si on peut le qualifier de cette manière. Et je vous remercie.
Merci. Donc maintenant, la place est à la discussion. Qui veut prendre la parole? Moi, je vais peut-être lancer la discussion, parce que c'est toujours un peu difficile de démarrer. Moi, j'ai deux questions qui traversent les différentes interventions. La première, mais je vais partir de la Syrie pour concrétiser ce que je veux dire. La première, c'est la lecture qui a été dominante très rapidement par rapport à la révolution en Syrie, qui a été une lecture en termes géopolitiques, c'est-à-dire d'un côté des acteurs occidentaux qu'on appelle souvent l'impérialisme, un peu par déformation, comme s'il n'y avait qu'un seul impérialisme sur la planète. Donc l'impérialisme américain, son organisation internationale, qui a marqué profondément la gauche occidentale comme étant la figure de l'adversaire. Et de ce point de vue-là, la situation en Tunisie, en Égypte, était différente de la situation en Syrie parce que, pour des raisons de cécité historique depuis pas mal de temps, y compris d'ailleurs par rapport à Kadhafi en Libye, la famille Assad, comme le clan Kadhafi, était perçue avec une bonne dose d'ignorance comme étant dans le camp anti-impérialiste. Et donc, bien que tout le monde se rende bien compte que c'était des formes assez dégénérées, profondément dégénérées du nationalisme arabe, ça restait quand même l'héritage ultime, comme Saddam Hussein d'ailleurs, du nationalisme arabe historique, allié, disons, issu des expériences de libération du tiers-monde, et que par conséquent, il restait quelque chose à défendre face à la férocité de l'impérialisme. Donc ça a été un thème qui reste, et d'ailleurs, la Russie de Poutine, c'est quand même un tout petit peu mieux que les États-Unis. Certains imaginaient encore que c'était l'Union soviétique, quoi qu'on en pense, hein, l'Union soviétique. Bon, donc voilà, donc il y a tout cet aspect-là d'une lecture, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, d'une lecture qui part de la géopolitique, chacun étant, comme on le sait, un expert de géopolitique, mais qui oublie totalement les acteurs principaux qui devraient être pour la gauche, pour le mouvement d'émancipation, l'acteur décisif, c'est-à-dire les peuples en lutte. Ça, c'est la première branche de la discussion. Et l'autre, qui est, je crois, que les puissances de ce monde, d'ailleurs, qu'elles soient occidentales ou russes, iraniennes, égyptiennes, saoudites, ont comme préoccupation par rapport à cette région arabe le maintien d'une stabilité, parce que depuis, disons, l'effondrement de l'Empire ottoman, c'est une région qui n'a pas connu des formes de développement démocratique ou des formes de droits populaires qui garantissent, du point de vue des puissances internationales, qui garantissent le maintien de leurs intérêts. Et finalement, toute forme d'explosion sociale, d'explosion populaire, met en cause des équilibres qui sont séculaires, enfin des équilibres, un équilibre de la domination séculaire, dont on ne sait pas très bien sur quoi il va déboucher. Alors, tant qu'on peut maintenir un régime, une armée, une police, des formes de domination extérieure comme en Tunisie, plus ou moins, ou en Égypte, c'est une chose. Mais dès lors qu'en Syrie, on ne sait pas, et je crois que c'est un peu le problème de tout le monde, qui va succéder à Assad pour mettre en place un ordre qui garantisse les privilèges, on préfère remettre en place un régime d'oppression, quel qu'il soit. Et derrière, quand je dis éclatement, c'est pas seulement la justice sociale, c'est la question kurde, c'est la question palestinienne, c'est la question du monopole du pétrole par quelques pétromonarchies. Donc il y a quelque part dans cette région, par rapport au reste du monde dominé, une sorte de complot des puissances, enfin complot, d'accord implicite des puissances impérialistes et des puissances régionales qu'il ne faut pas donner le pouvoir au peuple. Parce que sinon, tout peut leur filer entre les doigts. Voilà, je voulais lancer ce débat sur ces deux aspects. Je m'excuse, j'étais un peu long. Ce n'est pas mon rôle en tant que modérateur. C'est la parole, vraiment, poser des questions qui vous...
Oui. Juste une remarque. Moi, je suis frappé par le fait qu'on retrouve à la fois dans les attitudes, dans les échecs, dans les impasses et dans les résultats, malheureusement, quelque chose qui a à voir avec ce qui s'est passé dans les Balkans dans les années 90. C'est-à-dire qu'on a, dans les années 90, exactement la même incapacité d'une partie très importante de la gauche à penser ce qui est en train de se dérouler, parce que, grosso modo, On a l'impression qu'il y a d'un côté l'impérialisme américain et de l'autre, il y a l'impérialisme américain d'un côté, le titisme pour lequel, enfin ce qui reste du titisme pour lequel on a du mal à ne pas cacher une forme de sympathie pour des raisons qui d'ailleurs ont totalement disparu, mais qui demeurent comme ça de façon mythique. Et puis, par ailleurs, une sorte de peur viscérale de ce que l'on qualifie de nationalisme, sans savoir ce qu'on met derrière, d'ailleurs. Et on se retrouve dans un système où on a exactement les mêmes personnes qui tirent les fils. Je pense à Védrine, par exemple. La doctrine Védrine, c'est en fait la doctrine Mitterrand. Et c'est une doctrine qui a effectivement bloqué, dans une certaine mesure, la vision de la politique étrangère française. Assez bizarrement, Hollande, pour qui j'ai pas beaucoup de sympathie, a essayé d'y échapper un peu, mais avec une incapacité à un moment donné à mettre les choses en œuvre. Mais on se retrouve devant quelque chose du même ordre et devant le même échec, la même incapacité, et malheureusement aussi les mêmes discours justifiés d'amertume de la part des gens avec qui on, une solidarité politique aurait dû être marquée et une coaction politique aurait dû être engagée, et un échec final. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la diplomatie à la Kissinger ou à la Védrine qui, en quelque sorte, emporte le morceau. Et qui emporte le morceau, y compris parce que l'acteur principal dictatorial local, qu'il s'appelle Milosevic ou Assad, a su suffisamment jouer de la chose, quitte d'ailleurs à se faire expulser par la suite. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, les années 90 aussi sont intéressantes. C'est-à-dire que Milosevic, après avoir été le maître du jeu pour imposer des accords de Dayton, qui, là aussi c'est intéressant, n'ont produit qu'une catastrophe totale et un blocage total en Bosnie et en Serbie dans une certaine mesure, est expulsé au moment où il ne sert plus. Il est sorti du jeu au moment où il ne sort plus. Donc, moi, je suis frappé par cet écho et par le discours que vous venez de faire sur la Syrie et qui ressemble énormément à des analyses que moi j'ai entendues dans les années 90 de la part d'amis militants bosniens.
Merci. S'il n'y a pas d'autres.
Oui. Moi, c'est à propos de la notion de peuple, hein, vous en avez parlé un peu dans les différentes interventions, et il y a clairement quelque chose qui n'est pas bien défini à cet endroit-là, c'est-à-dire que parler chez Proudhon d'opposition entre peuple et multitude, en disant que c'est une forme d'effacement de la parole populaire, encore de parler d'un homme unique, du peuple comme un homme unique, etc. Et en même temps, l'intervention s'appelle l'oubli des peuples, et il y a quand même un sujet populaire comme ça qui revient et qui est ce qui a été effacé quand vous faites le parallèle entre les révolutions arabes et 1848. Et Zed Majed aussi, vous en parlez comme il reste le peuple syrien dans tout ça, au-delà du pétrole, au-delà de l'Assad, au-delà des islamistes. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un peu un malaise. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet de la révolution, c'est encore le peuple? Est-ce qu'on peut encore parler de ce point de vue-là? Et la Syrie, par rapport à ce problème-là, disons, j'ai l'impression que c'est assez significatif d'une révolution où le sujet révolutionnaire, on le trouve pas si facilement, il ne correspond pas au cadre révolutionnaire qu'on peut attendre, ou les cadres classiques. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça n'a pas été rejoint si facilement, parce que ça n'a pas pu être interprété par nos grilles de lecture révolutionnaire un peu classiques. C'est peut-être pour ça aussi que toute une partie de la gauche, notamment du NPA, a un peu sauté sur l'exemple kurde, parce que là, il y a un sujet révolutionnaire qui dit son nom peut-être beaucoup plus explicitement, etc. Et alors que dans l'exemple syrien, précisément, il y a quelque chose qui ressemble peut-être plus à, je ne sais pas s'il faut parler de multitude, mais en tout cas, au sein de l'ASL, l'organisation qui a eu au sein de l'ASL, ça ressemble beaucoup plus à vraiment différentes voix qui viennent se cohabiter. Et par ailleurs, entre l'ASL et différents groupes qu'on dit islamistes, il y a eu des alliances qui ont permis aux Occidentaux ensuite de voilà, créer la grille de lecture bien arrangeante qui permet de dire en fait la révolution est en train de se passer dans le conflit confessionnel, etc. Mais des alliances qui en fait relèvent d'une conflictualité au sein même du camp révolutionnaire, si on peut l'appeler comme ça. Mais donc ce camp révolutionnaire n'est pas le peuple. Enfin, il y a quelque chose là à clarifier.
Déjà, je vous remercie. Moi, je suis bon, bien sûr d'accord avec ce que vous avez dit. Mais pour un peu complexifier le débat, il y a un récent livre que j'ai trouvé intéressant de Asad Bayat, le chercheur iranien, qui dit Revolutions without revolutions. Sans être complètement d'accord sur sa thèse, il dit que ces révolutions, en Afrique du Nord, ces processus révolutionnaires, la principale différence avec, par exemple, celle d'Iran en 79 ou bien du Nicaragua, c'est le manque de révolutionnaires, de structures politiques révolutionnaires à leur tête. Bon, je pense que c'est un peu réducteur, mais je pense que ce n'est pas complètement faux dans le cadre de ces processus révolutionnaires. Et bon, on va se concentrer sur la Syrie. Je pense que c'est vrai que l'échec cette révolution, moi, je suis d'accord avec Francis, c'est en premier lieu d'abord les interventions étrangères, la répression, c'est clair. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la capacité de l'opposition syrienne, que ce soit au niveau même de l'ASL, de donner un discours politique. Ils n'ont jamais pu traduire en fait les slogans politiques de la rue et de structurer cela au niveau d'une opposition qui était le mouvement populaire inclusif pour toutes et tous, et qui avait, je pense, une hégémonie au niveau de la rue syrienne jusqu'à moitié de l'année 2013. Et après l'établissement de l'État islamique, après les massacres de la Ghouta, il y a eu un changement. Et là, je pense que c'est le début de la descente vraiment en enfer. Mais il y a quelque chose qui est vrai en disant ça manque, dans le cas syrien particulièrement, ils ont reproduit tout un discours qui, à bien des égards, pour l'opposition syrienne, n'est pas très différent sur beaucoup de choses que le régime. Quand on parle disons, de la direction politique, et là, bon, je sais que ça ne fait pas souvent plaisir, mais il y a une responsabilité historique du Parti du Peuple, sur erreur depuis les années 80, avec une alliance avec les Frères musulmans, en disant que Jabhat al-Nusra est une force révolutionnaire, on est dessus, et que Jaïch al-Islam, une organisation salafiste qui, je veux dire, à un moment donné, quel programme on donne aux gens? Politique néolibérale, similaire, par exemple, absolument la même chose. Défendre la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Bon, transmettre également un discours confessionnel, un discours raciste contre les Kurdes. Mettons de côté le PKK et ses problèmes, mais un discours raciste, disons. Bon, à un moment donné, on peut dire aussi qu'il y a un problème avec ça. Et il faut pointer du doigt, même chez les démocrates, là, c'est un gros problème. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une thèse qu'il faut peut-être aussi développer, je pense. Et donc, bien sûr, ce n'est pas une question de se lyncher, hein, mais c'est aussi d'avoir ces réflexions de la même manière que l'État. Et je pense ça aussi, c'est secondaire, mais aussi l'État syrien s'est maintenu jusqu'à 6 ans grâce aux aides étrangères, etc. Mais si on regarde toutes les grandes localités, Damas, même une partie d'Alep, même une partie de France, il y avait des services de l'État qui étaient donnés. Et maintenir un salaire pour des fonctionnaires, et dans une crise économique monstre au socio-économique, on parle de 2 millions de personnes qui reçoivent des salaires, même diminués avec l'inflation. Donc il y a, et tout le réseau clientéliste. Donc, ça aussi, c'est des choses à analyser. En plus de ce que vous avez dit, moi, je suis d'accord. Hein, je ne dis pas que vous mettez ça de côté, parce qu'il y a 20 minutes, c'est compliqué. Mais bon, complexifié.
Je pense qu'on va revenir à la table. Michel,
très vite, parce que pour qu'on puisse vraiment débattre, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Hein, ceux qui viennent d'intervenir avec vos questions sur... il faut voir ça, me semble-t-il, c'est pour ça que ce n'est pas artificiel ce qu'on vient de faire avec 1848 et les révolutions arabes, ce n'est pas simplement un écho de la presse de 2011. Il faut comprendre... En fait, moi j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, hein, après, mais j'ai quand même écrit plein de livres, mais... Je m'aperçois maintenant, c'est pour ça que je vais continuer sur le XXe siècle, je m'aperçois maintenant, je prends conscience que les révolutions, aucune révolution, à l'échelle mondiale et à l'échelle historique, y compris la révolution de 89, qui est considérée comme le modèle par excellence qui a réussi avec ce que ça implique. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a remplacé une couche sociale par une autre classe sociale. Et de fait, l'enthousiasme a perduré partout dans la mesure où les promesses de la Révolution française ont pu être reprises ici et là constamment. Mais il me semble que à chaque fois et partout, que ce soit en Grèce en 1830, que ce soit en Belgique en 1830, enfin, on peut remonter très loin après la Révolution et puis ensuite, on pourrait même faire allusion, par exemple, à la révolution chinoise ou, la, disons, le rêve de la révolution chinoise de 1911. Ce processus révolutionnaire, qui est en fait une révolte populaire de fait minoritaire, il faut bien qu'on se mette ça en tête. Le peuple, impossible d'identifier cette multitude, moi je dirais pas multitude, parce que c'est un terme qui, comme vous le savez, a été pris à Spinoza, bon, Negri l'a repris, etc., etc., je dirais une pluralité d'individus, y compris dans cette minorité. C'est une pluralité, Ziad l'a dit, hein, femmes voilées, femmes non voilées, ouvriers, hommes de rien, femmes de rien, mais aussi des gens qui sont cultivés. Celui qui m'a servi de modèle en 48, c'est un normalien qui comprend parfaitement le processus, qui dit que 48 est beaucoup plus importante, cette minorité détient en fait le moment formidable de transformation radicale de la société. Ce que font l'opposition dont vous parlez, ce que font les gouvernements provisoires ou non, ceux qui s'inscrivent dans le processus historique, qu'est-ce qu'ils font ? Ils intègrent en quelque sorte, ils intègrent ce qui est intégrable à l'ordre, dans la continuité de l'ordre. En Syrie, qu'est-ce qu'on veut globalement dans cet espace ? Redéfinir l'espace, reprendre pied au-delà de tout ce que veut le peuple, minoritaire ou pas. Donc, il nous importe, si on veut restaurer l'esprit d'émancipation, si on veut donner en quelque sorte un sens à cette émancipation, à être extrêmement clair sur ces dimensions historiques vues dans un très long espace pour montrer que, un, les révolutionnaires sont minoritaires, faire en sorte que cette minorité puisse effectivement s'étendre à une multiplicité de peuples, mais immédiatement saisir qui parle, qui fait la révolution, qu'est-ce qu'ils veulent, et essayer justement de faire en sorte qu'il y ait réellement une prise en compte. Jamais l'opposition légale, celle qui est reconnue, ne fera en sorte de rétablir, de effectivement être le porte-parole de cet esprit du peuple. Cette multiplicité, il faut pouvoir l'identifier immédiatement et faire en sorte qu'on arrête de l'effacer. Vous imaginez la tâche que ça représente. C'est absolument dantesque. Rétablir précisément la... le processus démocratique qui n'a jamais existé nulle part, ça veut dire donner la parole à ceux qui interviennent, mais en même temps, essayer de faire en sorte que cette parole puisse être reliée ailleurs à ceux qui précisément ne sont pas tout à fait au point, etc., etc. C'est un processus immense. Je dis souvent, moi je ne le verrai pas, mais je suis intimement convaincu qu'on a entamé ce chemin avec la multiplicité des collectifs qui se sont constitués, y compris bien dans d'autres pays que les pays dits démocratiques. Donc, effectivement, identifier le peuple. Personne n'a voulu l'identifier. Jamais. Jamais, parce que ce sont des gens qui, en fait, ne sont rien. Agissent, mais souvent ne parlent pas et du même coup ne laissent pas de traces. C'est facile de les effacer à ce moment-là. Donc la tâche est vraiment immense. Et je ne pense pas, moi, qu'on puisse, qu'on doive s'arrêter aux stratégies immédiates de ce qui est visible. C'est comprendre le processus qui est extrêmement long. Si Fukuyama a pu dire à la fin de l'histoire, à la fin de 89, c'est précisément ce libéralisme qui représente, et le néolibéralisme, représente la continuité qui donne sens à l'histoire. Et nous, on n'est pas dans le sens. On est dans le mouvement de l'histoire. Donc, dans ce suspens des temps historiques qui sont acceptés par tous les commentateurs.
Qui veut...
Francis, tu veux te...
Francis,
moi, je... Vas-y. Non, Francis.
Non, je pense qu'effectivement, c'est la question difficile hein, sur ce sujet révolutionnaire, oui, le peuple. On voit aujourd'hui tous les débats qui se développent sur la notion de populisme, tous ces problèmes qui viennent. Moi, il me semble que... Enfin, ce qui me frappe, c'est la dissymétrie qu'il y a entre les deux grands acteurs. C'est un peu révolution contre révolution. Parce que du côté de la contre-révolution... Les dominants, ceux qui ont le pouvoir, les puissants, entre eux, les divisions sont considérables en termes d'intérêts divergents, de visions qui ne sont pas les mêmes, de maniement des idées. C'est impressionnant de voir comment, effectivement, aujourd'hui, du côté du gouvernement français, par exemple, ce qui domine, c'est la réelle politique. C'est de dire qu'il ne faut pas aller se mêler des histoires des autres parce qu'on n'en retire que des ennuis. Ce qui est totalement hypocrite, puisqu'ils se mêlent de tout, partout. Mais du côté des puissants, ils arrivent à maîtriser ça à certains moments et de voir l'objectif qu'il faut atteindre et ils ont les moyens de l'atteindre. Au contraire, du côté des dominés, il y a cette complexité qui fait que rien jamais n'est simple. Et quand on dit peuple, quand il y a des soulèvements populaires, quand il y a une dynamique, on voit qu'il y a un acteur qui existe, qui est extrêmement, extrêmement divers, qui se construit contre... Moi, je ne partage pas la formule de Chantal Mouffe sur construire le peuple. On ne construit pas le peuple. Le peuple se construit. Il se construit dans sa mobilisation, dans ses mouvements. Mais le problème que soulève Joseph, il peut aller très loin dans le bouleversement de l'ordre social. Il fait preuve d'héroïsme, de créativité, d'inventivité. Mais il y a un moment où il a nécessairement besoin d'une intelligence collective, d'une volonté collective qui s'affirme à travers une stratégie, un programme, des objectifs. Et c'est là où on voit des groupes qui peuvent le faire, qui peuvent ambitionner de le faire et qui peuvent confisquer la dynamique populaire. Donc, il me semble que quand on dit révolution contre révolution, c'est tout cela. C'est pas le manuel
toute façon
scolaire.
Qui confisque.
Il y a tous ces éléments qui se mêlent et qui font que les dominants continuent à dominer et les dominés à subir la domination. Sauf dans des moments qui sont ces moments forts de l'histoire où il y a l'irruption populaire avec des groupes qui sont déterminants, d'autres qui le sont moins, et certains qui sont éclairés, d'autres moins, etc. C'est cette complexité de l'histoire vivante qui est l'émancipation.
Oui, alors moi juste rapidement par rapport à l'usage du terme peuple invisible en Syrie, c'était par rapport à ce que vous avez évoqué également, cette volonté toujours d'analyser le contexte syrien ou le contexte arabe en faisant des raccourcis géostratégiques et en essayant tout le temps d'expliquer ce qui se passe, non pas à travers les luttes sociales, non pas à travers les contradictions, à travers toutes questions complexes qui peuvent exister dans toute société, mais à travers cette grille de lecture, États-Unis, Russie, Iran, Arabie Saoudite, pétrole, gaz, gazoduc, et questions communautaires maintenant à la mode sunni-chiite. Les luttes sociales, les classes sociales, les partis politiques, les mouvements sociaux, tout ce qu'on a pu voir et analyser pendant de longues décennies, est complètement occulté, exactement comme les régimes font, en occultant leur peuple et en confisquant l'espace, le temps, l'absence d'élection. Donc, cette volonté des gens de revenir en tant qu'acteurs historiques, en tant que des gens qui se réapproprient leur propre histoire, leurs espaces, leur temps, on l'a occulté pour rester dans des configurations géostratégiques et qui sont, à mon avis, extrêmement faciles et évidentes. Tout le monde sait qu'il y a du pétrole dans la région et que c'est un facteur important. Tout le monde sait que le conflit israélo-palestinien a cristallisé beaucoup d'intérêts et de clivages, que les États-Unis ont des intérêts, que l'Arabie saoudite souhaite maintenir à tout prix un statu quo. L'Iran a une volonté d'expansion dans la région. On sait, et on a... Pour ne pas se positionner parfois, on ne veut pas voir les gens, on ne veut pas voir leur visage, on ne veut pas voir les victimes, les dominés qui se soulèvent, pour rester dans ce genre d'analyse. Et ça, c'est un sport que certains intellectuels, comme acteurs politiques de la gauche surtout, font. Parce qu'au niveau de la droite, c'est plus le racisme, c'est plus la volonté de ne rien voir là-bas, d'avoir peur tout le temps. Mais pour une partie de la gauche, c'était... l'échappatoire pour ne pas se positionner, ou bien pour, comme vous avez dit, c'est-à-dire Assad comme Kadhafi avant, leur logiciel, leur vocabulaire est anti-impérialiste, tandis que Ben Ali et Mubarak étaient vus comme des régimes pro-américains, donc leur Bourvel, le fait que des gens se soulèvent contre eux, ça c'est une révolution. Si des gens se soulèvent contre des dictateurs qui insultent les États-Unis, alors là, peut-être il y a un complot ou il y a autre chose. Et ce simplisme-là est extrêmement agaçant, en fait. Et n'en parle même pas que c'est une théorie fausse, parce que même s'ils étaient anti-impérialistes, cela ne justifie évidemment pas qu'ils massacrent leur peuple et qu'ils confisquent le pouvoir. Mais même au niveau de l'anti-impérialisme, Kadhafi a tout fait pour se réconcilier avec les impérialistes. Assad père a envoyé même son armée sous le drapeau américain en 91 en Irak pour se battre contre son frère ennemi Saddam Hussein. Il est rentré au Liban en 75 après avoir négocié avec Kissinger et les Israéliens son déploiement militaire. Il n'y a rien d'anti-impérialisme dans sa politique. Il a massacré la gauche libanaise et l'OLP de Arafat. Et, c'est-à-dire, même si on voit les détails, ce n'est pas le cas de l'anti-impérialisme, mais c'est facile pour... justifier une lâcheté et une volonté de ne pas prendre position d'une manière claire. Maintenant, la question de la stabilité, tout à fait, l'absence de perspective par rapport aux successeurs, je pense que ça peut être légitime quand on discute, mais en même temps, il faut savoir qu'après 40 ans de dictature, il n'est pas évident de voir le successeur émerger en un an ou en deux ans. Et en plus, pourquoi il doit y avoir un successeur et non pas un groupe pour la transition? Pourquoi ne pas penser à des comités, à des collectivités, à une autre forme de gouvernance et l'aider à se développer si jamais il y avait une volonté politique à le faire? Pour la question de maintenant l'armée syrienne libre, l'ALS et sa relation avec les islamistes qui n'était pas claire et tout. Moi, je suis d'accord, évidemment, Joseph, avec ce que vous avez dit. Peut-être j'ouvrirai une parenthèse concernant le Parti du Peuple, non pas pour le défendre, mais pour rendre aussi la situation un peu plus complexe. 2012 aussi est un tournant avant la descente en enfer à partir de 2013. 2012 dans le sens où cette révolte populaire qui était gérée par des comités de coordination local, il y avait des manifestations, des slogans, il y a eu des journées de mobilisation où plus de 1,800 000 étaient dans les rues, dans 900 manifestations en même temps sur le territoire syrien. L'armée syrienne libre était encore un petit groupe de soldats qui ont quitté l'armée parce qu'ils ont refusé de tirer sur les siens, avec des jeunes qui constituaient des brigades locales pour protéger les manifestants. On n'était pas encore dans une configuration de conflit armé ouvert. Mais à partir de juillet-août 2012, on est passé plus à un conflit armé où, d'un côté, le régime a tout fait pour tuer les manifestations et pour tuer toute expression pacifique pour que ça soit militarisé. Et d'autre part, une bonne partie des gens qui manifestaient et qui tombaient, qui mouraient, qui étaient plus tard dans des prisons, leurs camarades, leurs frères, leurs amis, considéraient que seule la lutte armée pouvait en finir avec ce régime. Sauf qu'une lutte armée, nécessite une logistique, nécessite des munitions, nécessite un corps combattant, nécessite de l'entraînement. Et tout cela ne se fait aujourd'hui qu'avec aussi des alliances, avec des acteurs étrangers, avec des puissances, avec, avec ceux qui peuvent fournir cela. Est-ce que les pays, entre guillemets, démocratiques, ont considéré que c'est une priorité? Non. L'armée syrienne libre n'a pas reçu ce qui lui aurait permis de s'institutionnaliser, de devenir un corps révolutionnaire, mais en même temps professionnel militairement, pour en finir avec un régime sauvage. On ne lui a pas donné des armes anti-air, donc l'aviation a pu modifier tout le temps le rapport de force. On a dit souvent que oui, mais on ne sait pas dans quelles mains cela allait tomber, bien qu'il y avait des interlocuteurs qu'on connaissait bien, qui auraient pu avoir un soutien correct. Qui va profiter de cette absence d'une volonté internationale de soutenir les révolutionnaires syriens? Des acteurs de la région, comme l'Arabie saoudite, le Qatar ou la Turquie, qui ne sont pas concernés par la cause du peuple syrien, et qui ne sont pas eux-mêmes, notamment l'Arabie et le Qatar, des acteurs démocratiques pour qu'ils veulent que la démocratie ou pour que les libertés triomphent en Syrie, mais qui ont une obsession par rapport à l'Iran, surtout l'Arabie saoudite, qui est un allié du régime, et donc pour affaiblir les Iraniens ou pour ne pas leur permettre de maintenir leur pression et leur expansion dans la région, ils ont soutenu l'opposition syrienne. Cette opposition est maintenant dans un dilemme, soit acceptée, soit refusée, comme tout dilemme qui peut avoir lieu dans des moments pareils. En acceptant, il devient plus ou moins otage de la politique régionale de ces deux acteurs-là. En refusant, ils se font massacrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Un combattant de l'armée syrienne libre qui a besoin de se battre et en même temps de nourrir ses enfants à 100 dollars ou à 150 dollars, il ne peut rien faire. Un groupe islamiste soutenu par l'Arabie saoudite qui lui propose 600 dollars, il le prend. Il faut, je pense, démystifier aussi un peu ce passage vers l'islamisation. Je ne minimise pas du tout l'impact contre-révolutionnaire des forces islamistes, salafistes, etc. Mais il y a des conditions sociales, il y a une réalité sociale dans des zones rurales un peu conservatrices, bombardées, où il y a 50 funérailles par jour, où la métaphysique est de retour d'une manière très puissante, où les parents enterrent leurs enfants, où il y a un abandon mondial. Qu'est-ce qui reste? Et d'ailleurs, c'était un slogan qui va commencer à apparaître avec le temps, qui n'était pas au début. « Ya Allah, malna ghayrak, ya Allah. Oh Dieu, on n'a que vous, oh Dieu. » Bien qu'au début, c'était « Le peuple veut la chute du régime. » C'était la liberté, la dignité. Avec le temps, une guerre crée des métamorphoses, une violence qui s'abat d'une manière inouïe sur les gens. Tout ça a rendu les forces islamistes plus puissantes sur le terrain. Et avec plus de violence, elles devenaient aussi les forces capables de recevoir cette violence et de la pratiquer en retour. Et là, je pense, une bonne partie de l'opposition syrienne était complètement perdue. Comment ne pas soutenir des gens qui se battent pour défendre leur localité, bien qu'ils sont islamistes? Et en même temps, comment ne pas jouer le jeu des islamistes et de ceux, des bailleurs de fonds qui les soutiennent? Et je pense que le manque d'expérience et parfois le manque de crédibilité aussi de beaucoup d'opposants dans le sens institutionnel a fait qu'ils ont été piégés et que leur performance a été médiocre. Et ils n'ont pas su défendre leur cause, leurs questions, élaborer un programme, etc. Mais il faut rappeler aussi qu'il y avait beaucoup de potentiel et que le régime a bien su cibler ce potentiel-là. Quand on parle de personnes au niveau des Syriens arabes, comme au niveau des Syriens kurdes, qui ont été assassinés dès 2011, qui ont été arrêtés dès 2012. On peut citer des dizaines de noms de gens qui étaient à l'intérieur du pays, qui sont en relation avec les gens autour d'eux, qui ne laissaient pas le champ de cette relation directe au monopole des islamistes. Ils ont tous été tués, assassinés par le régime, arrêtés, ou bien rentrés en clandestinité avant de partir du pays. Et donc, l'opposition institutionnelle aujourd'hui, la coalition, avant ça le Conseil national, c'est vrai qu'ils reproduisent certains schémas qui ne sont pas très différents de la culture politique que le régime a forcé dans le pays, a construit dans le pays pendant 40 ans. Ils ont des modes d'opération qui ne sont pas tout à fait progressistes et démocratiques, ça c'est évident. Maintenant, pour le Parti du Peuple, je pense que la question est un peu plus compliquée, non pas pour défendre Riyad Tarek, qui est toujours en clandestinité à Damas et qui a fait 20 ans de prison sous référence à père et fils. Mais les déclarations, je pense, à laquelle tu as fait allusion pour Jabhat al-Nusra, c'était plutôt un individu, Sabra, pour des raisons qu'il pensait être pragmatique, réaliste sur le terrain. Et c'était un échec total, voire un scandale. Mais Asif Bayat, et je finis là, son livre Révolution sans révolutionnaire, fait écho à un autre livre édité par Hassan Salam il y a des années, Démocratie sans démocrate. Moi, je crains ce genre de titre parce qu'il peut aussi... Il y a des gens qui peuvent se contenter du titre et commencer à le répéter sans lire. Et Asif Bayat, dans ce sens-là, quand il parle de la question, il a dans un sens raison, mais en même temps, dans le cas iranien, avec la direction de Khomeini, avec le réseau religieux du chiisme iranien, c'était beaucoup plus facile de consolider une direction de l'opposition, et le prix, de toute façon, a été cher pour d'autres opposants. Dans le cas syrien et dans les cas de plusieurs oppositions arabes, ils n'ont même pas eu le temps de commencer à se reconstruire et à construire un autre modèle alternatif, parce que soit les nouveaux potentiels dirigeants ont été ciblés, arrêtés, tués, puis en exil, etc. Soit le rapport de force électorale, comme dans le cas égyptien, a offert aux frères musulmans la possibilité de diriger. Et c'était un échec, mais c'est un échec qui a amené après à un fascisme que l'armée représente aujourd'hui et que Sisi représente dans une contre-révolution exemplaire, dans un sens. Donc, cette question de... J'ai beaucoup aimé la formule de le mouvement de l'histoire vis-à-vis du sens de l'histoire. Les contre-révolutions peut-être occupent aujourd'hui ce sens de l'histoire, mais il y a toujours des processus qui donnent le mouvement et qui peuvent se prolonger à travers parfois des collectifs, des individus, des comités, des gens qui essayent tout le temps d'écrire et de réécrire et de comprendre et d'analyser et de permettre de mieux aussi voir, ou disons de voir plus clairement ce qui se passe, et ça va prendre du temps. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'irréversible, et malgré toute la violence qui s'abat, il y a une instabilité qui peut être positive intellectuellement, même si sur le terrain, elle est désastreuse, vu le coût humain et vu la difficulté de la phase dans laquelle on vit aujourd'hui.
Peut-être une remarque, je te donne tout de suite la parole, une remarque par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que tout ce colloque Penser l'émancipation tourne autour de l'idée qu'on a besoin de recréer collectivement un horizon ou des horizons d'émancipation, et que l'effondrement du socialisme sous toutes ses formes, des idées portées par le socialisme au 19e, au 20e siècle, ou le communisme, est un problème pour les mouvements d'émancipation. C'est un problème, ça peut être aussi une opportunité, parce qu'on peut dépasser un certain nombre d'erreurs, de fausses fenêtres qui étaient dessinées dans le passé, notamment en réinsistant sur la primauté de l'auto-émancipation et des mouvements populaires sur des visions qui étaient inspirées par le socialisme par en haut, par l'émancipation... derrière le grand leader. Bon, c'est vrai, c'est de ce point de vue-là, c'est une chance, mais il ne faut pas se cacher que l'absence d'horizon et l'absence d'horizon internationaliste aussi d'émancipation est un énorme problème. C'est pour ça que je posais la question à la plénière de mercredi à la jeune femme qui parlait de urgence à la police assassine par rapport à son frère qui a été tué il y a 5 ans. En France, est-ce que vous avez pris contact avec Black Lives Matter aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des liens qui se créent? Oui, il y a des liens qui se créent, a-t-elle répondu, et ça, c'est assez encourageant. Mais si on se tourne en particulier vers le monde, je dirais, arabo-musulman, pour faire simple, depuis les années 20, il y a eu une domination sur le plan idéologique, en tout cas dans le monde sunnite, du wahhabisme dans l'islam politique, qui a exporté une certaine vision de l'islam qui est en lutte contre toutes sortes de variantes d'islam populaire qui n'ont pas du tout cette perspective. Et le wahhabisme était très minoritaire historiquement, très marginal dans le monde musulman, et s'est imposé. C'est pour ça qu'on dit islamisme, etc. Il y a beaucoup de raccourcis. Ouais. C'est un islam politique très particulier qui s'est construit en marge de l'islam populaire, qui est une arme de combat contre l'émancipation, qui prend toutes sortes, qui se décline sous toutes sortes de formes. Mais c'est vrai que c'est très pratique du point de vue d'une vision postcoloniale occidentale de considérer que ce monde-là, que cette partie de ce qu'on appelait le tiers-monde, oui, est vouée à une espèce de barbarie, oui, parce qu'il est dominé par le religieux, alors que nous, ça fait longtemps qu'on s'est émancipé du religieux. Il est dominé par le religieux. Le religieux, c'est le wahhabisme. Pire encore, d'ailleurs, parce que le wahhabisme ne nous dérange pas trop, c'est l'Arabie Saoudite qui reste tranquillement chez eux, mais c'est les djihadistes qui tuent tout le monde sans discernement, enfin, de manière totalement barbare. Et donc, il y a maintenant une image qui a été collée sur l'ensemble de cette région, parce que c'est aussi... maintenant, on se tait sur les chiites, parce que... Voilà... Mais enfin, la révolution iranienne a montré que même la version chiite
extrêmement autoritaire.
Voilà, à des formes extrêmement autoritaires. Donc, redessiner un horizon d'émancipation à l'échelle internationale, à laquelle on puisse, auquel on puisse se raccrocher. Je ne dis pas un horizon, on va tous aller dans la même direction, mais une convergence des possibilités, un regard vers l'émancipation avec ces formes différentes que vont se donner les peuples, ça, c'est quelque chose qui va mettre du temps à être construit. Et je m'arrêterai là-dessus, ouais, mais quand il y a eu, au lendemain de la révolution en Tunisie, à Genève, d'où je viens, une journaliste était venue vers un jeune Tunisien en disant « Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes mûr pour la démocratie ?» Donc déjà, a priori, elle pensait que c'était bien trop tôt. Ouais.
Vous devez attendre encore 40 ans de dictature, voilà, après on verra.
Peut-être qu'il leur faut encore 20 ans de dictature. Donc, et puis maintenant, je suis sûr qu'elle est convaincue qu'elle avait raison de poser cette question.
Oui, la preuve.
Bon, la preuve. Donc c'est ça, je crois, c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de tenir ces colloques, penser l'émancipation, parce que, ou sous d'autres formes, mais... les luttes populaires, il faut chaque fois y être le plus attentif possible parce que c'est elles qui donnent le mouvement, mais il faut qu'on en profite pour réfléchir à les lignes, l'horizon vers lequel on marche, parce qu'on ne peut pas rester le nez dans le guidon uniquement. Il faut qu'on lève un peu la tête et qu'on le fasse à l'échelle internationale.
Pour l'instant, il faut lever le camp parce qu'ils attendent. On a un quart d'heure de retard par rapport.
Non,
non, non.
On a 2 minutes.
Ah,
c'est bon. Il y a personne derrière nous.
Il y avait juste quelqu'un.
Oui, dans son livre sur l'éruption des droits de l'homme dans les relations internationales, Bertrand Badin nous rappelle les dialogues qu'il y a eu au XVIIe siècle entre Hobbes et Grotius, le juriste néerlandais. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut se rappeler de ces gens de dialectique, étant donné que les sujets sont toujours présents. Hein, ça a été la naissance à l'époque. C'est Hobbes, bien entendu, qui a eu la cause. Et aujourd'hui, c'est Grotius qui s'impose de plus en plus. N'est-ce pas? L'irruption du droit d'ingérence dans le monde, dans les années 80, 90, etc., qui a donné localement ce que nous avons connu avec Kouchner, puis son centre derrière sur les dents en Somalie, ou en tant que ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, ou même BHL, sortant de l'Élysée avec un apparatchik libyen, en annonçant que voilà, la France part en guerre contre la Libye. Bon, c'est une petite introduction pour Majed. Je voulais faire un petit rappel, peut-être que c'est sûrement un oubli, concernant les républiques, encore une succession dynastique. et la Syrie, ce n'est pas la seule hein, qui aurait cette couleur-là. La Corée du Nord, vous vous rappelez,
non, mais j'ai dit que c'est le deuxième cas après la Corée du Nord.
D'accord. Mais ensuite, l'Afrique.
Oui, oui, le Gabon, c'est après.
Les Gabon, ouais. Les Togo, et puis, bon, il y en a même des présidents en place, comme Karim Bouab, c'est Macky Sall, ou Ibrahim Boubacar Keïta entre le Sénégal et la, oui. Et le Mali, qui rêveraient que leur fiston succède. Hein, papa propose.
Oui.
Bon, ce petit rappel, ce n'est sûrement pas le dernier. Et puis la France, enfin l'Occident, s'en accommode très bien à des régions de succession, parce que c'est des régimes qui les caractérisent longuement, hein, mais pro-occidentaux, sans problème. Hein. Et question que je voudrais poser concernant la Syrie, qui soutient Assad? Parce qu'il faut peut-être s'imaginer qu'Assad est soutenu, il n'est pas contre un peuple 100% contrôlé. Quel est le rôle, quelle est la position des minorités hein, on oublie d'examiner dans l'histoire parce qu'il y a des minorités dans un pays comme d'autres, proche Moyen-Orient, mosaïque, religieux et ethnique. Et puis, finalement, moi, j'utilise la grille d'analyse hein, sur la Libye pour aborder la Syrie. Hein, c'était une guerre déterminée par une puissance. Hein, comme la France avec le Royaume-Uni, et qui avait pour but un changement de régime. Hein, ce n'était pas le soutien prétendu d'une révolution libyenne hein, pour instaurer bon, une révolution émancipatrice en Libye. Sinon, hein, la question qui s'impose, c'est où est la révolution libyenne aujourd'hui hein, où est la libération hein, de la tyrannie des Gaddafi aujourd'hui hein, où la France, et pas seulement la France, l'Europe, et puis l'Afrique du Sahel, paye hein, les prix de cette intervention, de cette guerre qui n'avait pas lieu d'être, tout simplement. Et une question à Mme Bussard, si elle peut nous rappeler un peu, de faire un lien entre 48 et puis 23 ans après, la Commune de Paris, qu'on oublie aussi très souvent. Hein, des cités dans la généalogie de la République française, parce que c'est Pierre et puis par la suite MacMahon hein, qui n'étaient pas des républicains convaincus hein, qui ont donné naissance à ce que nous vivons aujourd'hui, première ou deuxième république très éphémère hein, noyée dans les sangs hein, et puis cette troisième république qui est le résultat d'une guerre d'une occupation du sol français et dans le changement de régime, hein, parce que la chute du Second Empire, c'était bien ça. Et puis l'écrasement d'un projet révolutionnaire qui allait bien au-delà, hein, de mon point de vue, que 48. Hein. Je me rappelle à l'occasion que la Commune de Paris avait fait fi hein, de l'opposition de la citoyenneté et la nationalité. Il y avait des étrangers qui étaient. Qui participait aux assemblées et qui était élu sans problème. Tu es allemand, il n'y a pas de problème. Tu es belge, il n'y a pas de problème. On a un mandat. Or, depuis 1980, avec les promesses de reconnaître la citoyenneté aux étrangers en France, on en est toujours là. Pas le droit de vote non, des étrangers non européens, pas le droit de vote, et puis bien entendu, encore moins d'être mandaté.
Merci. Oui, je ne sais pas si on a le temps, mais juste deux commentaires rapides. Le premier par rapport à la Libye, j'espère que je ne vous ai pas bien compris. C'est-à-dire, c'était quoi? De garder Kadhafi, c'était mieux? De garder un criminel et un dictateur qui a régné pendant 42 ans, c'était mieux que l'instabilité? C'est exactement l'argument contre lequel souvent j'essaye de développer quelques réflexions. La stabilité sous des criminels, ne justifie pas, c'est-à-dire n'est pas justifié pour moi. Si on a un régime qui est en place depuis 40 ans ou depuis 30 ans et qui commet des massacres, des crimes contre l'humanité, qui écrase son peuple, la priorité, à mon avis, c'est d'en finir avec ce régime. Maintenant, après, il y a des phases d'instabilité, il peut y avoir des problèmes, les choses sont complexes, oui. mais c'est une humiliation aux Libyens de leur dire que pour la stabilité et surtout pour les intérêts de ceux qui profitent d'une certaine stabilité, il faut que vous acceptiez de rester humilié, écrasé, en prison, en exil, sans dignité, parce que il y a un régime, s'il saute, il y aura une instabilité. Après, vous voulez évaluer la politique étrangère française, britannique, comment ils sont intervenus, pourquoi, pour quelles raisons. Ça, c'est un autre débat et il est tout à fait légitime. Pour la Syrie, il n'y a pas une seule dictature, qu'elle soit barbare comme celle des Assad ou moins barbare comme d'autres, qui ne profite pas et qui ne bénéficie pas d'une certaine base populaire. Toute dictature dans l'histoire du monde a un soutien dans la société. Je pense que Ceausescu avait aussi des gens qui le soutiennent. Pinochet avait des grandes catégories de la société chilienne qui l'ont soutenu. Les fascistes généraux argentins en avaient aussi un soutien dans plusieurs catégories sociales. N'en parlons pas du fascisme italien, des nazis allemands et tout. Et les Assad, comme Saddam Hussein avant eux, comme les Kadhafi, comme d'autres, ont aussi une partie de la société qui les soutiennent, qu'elle soit formée d'affairistes, de clientélistes, des gens qui, pendant 47 ans, ont profité du système, ou qui ont des craintes, vous les avez qualifiées de minorités religieuses ou autres religieuses. C'est normal, oui, il y a une minorité en Syrie qui peut soutenir ce régime-là, mais cela ne le rend pas plus légitime. Et même s'il avait une grande partie qui le soutient, ça ne le donne aucune légitimité quand il commet des crimes contre l'humanité et crimes de guerre et quand il est responsable de la mort de 500 000 personnes. Mais de toute façon, ce qui le garde au pouvoir, ce qui le préserve au pouvoir aujourd'hui, ce sont des interventions russes, iraniennes, de milices chiites irakiennes et libanaises, en l'occurrence Hezbollah. Donc il est au pouvoir aujourd'hui grâce à une occupation étrangère du pays qui est également responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Très vite, je ne pense pas que ta réponse est très exacte, mais je ne pense pas que c'était ce que vous aviez dit, c'était pour soutenir. Enfin bref, vous avez parfaitement raison sur 71. Si je privilégie, non pas parce que je suis spécialiste de 48 à 71, c'est que 71 a eu un devenir historique, à la fois par, disons, ceux qui ont interprété le proudhonisme et ceux qui ont interprété Marx. Pour les marxistes, pas au sens action liée à la pensée de Marx. Hein. Les marxistes qui ont traduit Marx. Comme pour les proudhoniens, 1848, pour l'essentiel, c'était lié aux utopistes. Si on prend par exemple ce qui a fait loi dans l'histoire, dans ce continu, c'est le point de vue de Engels qui considère que le socialisme utopique est quelque chose qui est peut-être intéressant dans un temps historique, mais qui s'oppose au socialisme scientifique. Ça veut dire que la Commune de Paris a eu un devenir historique. Alors que 1848, les expériences que j'ai pas le temps de développer, moi, hein, les expériences de 48, elles étaient encore beaucoup plus courtes parce qu'elles étaient faites dans l'opposition de l'opposition, avec ce que ça implique comme minorité, comme effacement, comme ombre. Mais 1871, c'est un processus de réveil, de renaissance de 48. Et il réclame à nouveau, hein, il défend la République. Bien sûr, pas la République telle qu'elle a été mise en œuvre. Hein. C'est la République démocratique et sociale. Et pendant les quelques semaines où les communards ont eu la possibilité de mettre en œuvre quelque chose, ils ont été extrêmement clairs. On a oublié aussi, dans la tradition de lecture de l'histoire, on a oublié la minorité animée par Varlin, entre autres, qui, lui, a été assassiné plusieurs fois pendant la répression. On a oublié que l'opposition s'était opposée à la restauration d'un salut public, l'opposition de la Commune. Mais comment on veut lire la tradition continue, hein, selon le modèle du libéralisme, la tradition continue de la Révolution française avec un crochet par la Révolution russe jusqu'à nos jours, eh bien, le processus pluriel du point de vue populaire, on a oublié aussi que dans chaque arrondissement, le gouvernement de la Commune ne pouvait pas prendre de position sans l'accord ça a été réellement la démocratie directe, le gouvernement direct des travailleurs pendant un temps très court. La différence entre la Commune et 48, c'est que 48, c'était large, j'allais dire massif. Hein. La bataille du drapeau rouge en 48, elle s'est passée aussi à Lyon. La Commune a été extrêmement isolée, ultra-parisienne. Et qui plus est, les trois quarts, qu'est-ce que je dis, 90% des intellectuels de l'époque, on ne les appelait pas les intellectuels, mais enfin disons, ceux qui parlaient, étaient radicalement opposés à la Commune de Paris. C'est-à-dire que l'oubli s'est installé, et la République s'est installée, vous l'avez parfaitement, c'est parfaitement juste, sur cet effacement de la Commune. Effacement qui perdure, puisque dans les colloques, y compris en 1992, les colloques sur la commémoration de la République, etc., etc., on a oublié la Commune. On a rétabli, je dirais presque, le républicanisme de Thiers, et la Commune était absente au moment de cette commémoration. C'est dire que la question des commémorations, il faut s'en méfier, comme le disait très justement Benjamin, craignons considérablement les commémorations, parce que plutôt que d'avoir un point de vue critique sur ce qui s'est passé et sur la façon dont l'histoire a été écrite, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on continue et on perdure, et on fait perdurer justement cet effacement et cet enfouissement sous ce continuum de l'histoire. Juste un petit point, on n'a pas le temps de discuter, mais à mon avis, par rapport à Hobbes et Locke, je crois que c'est Locke qui l'a emporté, quant au fond, sur le devenir de l'histoire. La glorieuse révolution anglaise a eu réellement un atout considérable dans le devenir, justement, de cette pensée de la Révolution qui a occulté pratiquement totalement les possibles et les espoirs de la Révolution anglaise première du terme. On a oublié l'importance et ce processus des leveleurs et des diggers de la Révolution anglaise. Donc historiquement, à mon avis, c'est Locke qui l'a emporté sur Hobbes. Mais ça, c'est une petite parenthèse.
Merci, je crois qu'on doit libérer la salle.
C'est qui, c'est Benjamin?
Benjamin, oui.
Oui, Benjamin.
Sur
Paris, il y a un manque.